Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un premier extrait du roman de Carmen Laforêt, Nada. Andrea a 18 ans lorsqu'elle débarque à Barcelone pour suivre des études de lettres. Elle loge dans sa famille, rue Aribaut, et elle a hâte d'apprendre et de vivre. Dans ces années 1940, Barcelone est une ville brisée par le régime franquiste, hantée par les souvenirs de la guerre civile, ravagée par la pénurie et la misère, où s'agit une petite bourgeoisie conformiste et frileuse. Ayant eu au dernier moment des difficultés avec mon billet, je n'arrivais à Barcelone qu'à minuit par un autre train que celui que je devais prendre. Personne ne m'attendait. C'était la première fois que je voyageais seule, mais je n'en étais pas impressionnée, au contraire. Cette profonde liberté dans la nuit avait un goût piquant d'aventure. Après un voyage long et fatigant, le sang commençait à circuler dans mes jambes engourdies. Je regardais avec un sourire étonné la vaste gare de France, les gens venus attendre l'express, et nous qui arrivions avec 3 heures de retard. L'odeur particulière des gares, leur brouhaha, leur lumière triste, avait pour moi un grand charme. J'étais plongée dans cette merveille, être enfin dans la grande ville adorée en rêve parce qu'inconnue. Je me mis à suivre, goutte dans le courant, le flot humain chargé de bagages qui s'écoulait vers la sortie. Le mien consistait en une seule valise, très grande et très lourde, presque entièrement pleine de livres, que je portais moi-même avec toute la force de la jeunesse et de mon anxieuse attente. Un air marin, dense et frais, entra dans mes poumons avec la première sensation confuse de la ville, une masse de maisons somnolentes, de boutiques fermées, de réverbères pareils à des sentinelles ivres de solitude. Une respiration vaste, laborieuse, venait avec le chuchotement du petit matin. Tout près dans mon dos, face aux ruelles mystérieuses qui mènent au quartier du Born, sur mon cœur battant, la mer. Avec mon air rieur et mon vieux manteau qui me battait les jambes, je devais avoir l'allure d'un étrange personnage, en train de défendre sa valise contre les porteurs obséquieux. En quelques minutes, je me trouvais seule sur le vaste trottoir. Les gens se jetaient sur les rares taxis ou se battaient pour s'accrocher au tramway. Un de ces vieux fiacres qui ont reparu depuis la guerre s'arrêta devant moi. Je montais sans hésiter, au nez d'un brave type qui se mit à courir après désespérément en agitant son chapeau. Le vieux fiacre, démantibulé, suivait de larges rues vides, traversait le cœur de la ville, débordant à toute heure de lumière, comme j'aurais voulu qu'il ne fût, le long d'une expédition qui me parut courte et chargée de beauté. Il fit le tour de la place de l'université, dont le bel édifice m'émut comme un grave salut de bienvenue. Puis nous enfilâmes la rue Aribaut, où habitait ma famille. Dans son silence épaissi par les platanes verts, la respiration de 1000 êtres palpitait derrière les fenêtres sans lumière. Les roues du fiacre laissaient derrière elles un sillage de bruit dont l'écho résonnait dans ma tête. Tout à coup, je sentis grincer et vaciller toute la guimbarde, puis elle s'immobilisa. « C'est ici, » dit le cocher.
Thank you.
Je levai les yeux sur la maison. Des rangées de fenêtres toutes pareilles, avec leurs rampes en fer sombre, gardaient le secret des logis. Quelles étaient celles où désormais j'allais me pencher ? D'une main un peu tremblante, je tendis quelques sous au veilleur de nuit. Dans un grand fracas de verre et de vitres, il referma la porte sur moi. Je me mis à monter très lentement, chargé de ma valise. Tout commençait à me devenir étranger. Avec ses marches étroites usées, recouvertes de carreaux de faïence, brillant sous la lumière électrique, cet escalier n'avait point sa place dans mon souvenir. Devant la porte de l'appartement, je fus saisi par la crainte soudaine d'éveiller ces inconnus qui étaient malgré tout mes parents. J'hésitai un moment. Je sonnai timidement. Personne ne répondit. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je sonnai de nouveau. Une voix chevrotante répondit « J'arrive, j'arrive !» Des pas traînants, des mains maladroites qui tirent le verrou, une vision de cauchemar. Devant moi, un vestibule éclairé par une seule chétive ampoule accrochée à l'une des branches d'un lustre magnifique couvert de toiles d'araignée. Un fond sombre de meubles entassés les uns sur les autres, comme dans les déménagements. Au premier plan, la tache blanchâtre d'une petite vieille décrépite, en longue chemise de nuit, avec un fichu jeté sur les épaules. Je pense m'être trompé d'étage, mais ce pauvre être falot a un sourire de bonté si doux qu'une certitude m'en vient. Voilà ma grand-mère. « C'est toi, Gloria ? » chuchote-t-elle. Incapable de parler, je fais non de la tête, mais dans l'ombre, elle ne me voit pas. « Qu'as-tu à rester là ? Viens, ma fille ! Pour l'amour de Dieu, quand Gustas ne se rende pas compte que tu rentres à des heures pareilles !» Intriguée, je traîne ma valise et referme la porte. La pauvre vieille se met à balbutier déconcertée. « Tu ne me reconnais pas, grand-mère ? C'est moi, c'est Andrea. » « Andrea ?» Elle hésite, fait effort pour se souvenir. Tout cela est lamentable. « Qui, grand-mère ? Ta petite fille ? Je n'ai pas pu arriver ce matin comme je te l'avais écrit. » La pauvre vieille continue à n'y rien comprendre lorsque sur l'une des portes donnant sur le vestibule paraît en pyjama un type grand, décharné. C'est Juan, l'un de mes oncles. Sous la faible ampoule, sa figure se creuse comme une tête de mort. Il me tape sur l'épaule en m'appelant sa nièce. Après quoi, la grand-mère jette ses bras autour de mon cou, tandis que ses yeux clairs s'emplissent de larmes et qu'elle balbutie. Pauvre petite, pauvre petite. Dans toute cette scène, il y a un je ne sais quoi d'angoissant, et dans tout l'appartement une atmosphère suffocante, comme si l'air y était stagnant et pourri. Levant les yeux, j'aperçois plusieurs fantômes de femmes. J'ai presque la chair de poule en découvrant que l'une d'elles porte des haillons noirs qui ont l'air d'une chemise de nuit. Tout sur elle est horrible et sordide, jusqu'aux dents verdâtres qui me sourient. Sur ses talons, noirs lui aussi, comme une prolongation de deuil, un chien bâille bruyamment. Je saurai plus tard que c'est la bonne. Jamais créature au monde ne m'a produit une impression aussi désagréable. Derrière l'oncle Jean paraît une autre femme, jeune, maigre, aux cheveux roux retombant en désordre sur un visage pâle et aigu, inconsistant comme un linge accroché et qui accroît la pénible sensation que j'ai de tout ce qui est devant moi. La tête de ma grand-mère pend sur mon épaule. Ses bras flottent autour de mon cou. Moi-même, je me tiens inerte face à toutes ces apparitions, toutes pareillement allongées et sombres. Allongées, immobiles et tristes, comme les cierges d'une veillée funèbre de village. « Bon, ça va, maman, ça va ?» dit une voix sèche et comme offensée. Je sais ainsi qu'il y a une autre femme derrière moi. Une main se pose sur mon épaule, une autre me prend le menton. Je suis grande, mais ma tante, Angustias, l'est plus que moi et me force à la regarder de bas en haut. Une ombre de dédain passe sur sa physionomie. Ses cheveux poivre et sel retombent sur ses épaules. Son visage sombre et mince n'est pas sans beauté. Ce que tu m'as fait poireauter ce matin, ma fille, comment aurais-je pu me figurer que tu arriverais de nuit ? Elle a lâché mon menton et s'est plantée devant moi, dans toute la hauteur de sa chemise de nuit blanche et de sa robe de chambre bleue. Seigneur, Seigneur, quelle histoire ! Une enfant voyageant seule. J'entends Juan grommeler. Voilà encore cette sorcière d'Angustias qui embrouille tout. Angustias fait semblant de ne pas entendre. Tu dois être fatiguée. Et s'adressant à la femme à la gaine noire. Antonia, vous allez préparer un lit pour ma nièce. Je suis fatiguée et me sens en outre affreusement sale. Ces gens, dans une atmosphère sombre et cet amoncellement de choses, font tout à coup peser lourdement sur moi toute la chaleur et toute la fumée du voyage. J'éprouve jusqu'à l'angoisse le besoin de respirer un souffle d'air pur. La femme échevelée me dévisage avec un sourire hébété, puis regarde ma valise. Je suis son regard. Dans son désarroi provincial, d'une couleur indéfinissable, serré avec des cordes, ma pauvre mallette marque, à côté de moi, le centre de cette étrange assemblée. Juan vient vers moi. « Tu ne connais pas ma femme, Andrea ?» Il pousse par les épaules la femme échevelée. « Je m'appelle Gloria, » dit-elle. Grand-mère nous regarde avec un sourire un peu inquiet. « Comment vous vous serrez la main ? Qu'est-ce que ça signifie ? Embrassez-vous, mes enfants !» Gloria murmure à mon oreille. « Tu as peur ?» À ce moment, j'ai presque peur, en effet, en voyant la figure de Juan. Avec des tics nerveux, il se mordille les joues et essaye de sourire. Autoritaire, tante Angustias tranche. « Allons, il est temps de dormir, il est tard. Je voudrais me laver un peu. Quoi ? Parle plus fort, te laver ?» Tous les yeux m'interrogent, étonnés. « C'est que nous n'avons pas d'eau chaude, » dit Angustias. « Ça ne fait rien. Tu veux te risquer à prendre une douche à 7 heures ? Bien sûr. » J'ai eu tort, je suis revenu dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glissé le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau l'arbre se dressant comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couché sous l'arbre et c'était les mêmes odeurs et j'ai laissé couler mes pleurs.
Vous pouvez me retrouver chaque vendredi à 8h30 ou en rediffusion le mardi à 16h30 ainsi qu'en podcast.
Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots.